Vous écoutez France Culture.
Thomas Piketty.
Oui, alors, comme toujours, il y a plusieurs façons de régler les choses. Il y a la coopération internationale parfaite et puis il y a le repli national le plus complet. Alors, je ne sais pas quel est le plus dangereux, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que toute cette palette existe. Donc, la coopération internationale parfaite, ce serait effectivement un gouvernement mondial qui se met d'accord sur un barème d'imposition progressive du capital et qui se répartit harmonieusement les recettes. Bon, visiblement, ce n'est pas pour demain. Après ça, il y a la coopération entre blocs régionaux. Donc, par exemple, c'est l'Union européenne, les États-Unis qui font des échanges automatiques d'informations bancaires et qui permettent à chaque bloc continental de reprendre un peu de souveraineté sur ses impôts. Il faut quand même bien voir qu'aujourd'hui, on a une situation où les États ne savent plus qui possède leur société. C'est-à-dire que vous pouvez même avoir un président de la République qui ne sait pas que son ministre du budget a un compte à 2 heures de TGV de Paris. Donc c'est quand même une situation qui est tout à fait étonnante. Donc dire qu'on ne peut rien faire face à ça, pour le coup, me paraît pas sérieux. C'est-à-dire, je pense que si les États, sans aller jusqu'au gouvernement mondial, peuvent coopérer, peuvent faire des échanges automatiques d'informations qui leur permettent de prélever l'impôt. Vous savez, par exemple, on demande aux Grecs de mettre à contribution leurs contribuables fortunés. Et on a bien raison, parce que les impôts en grec sont très mal organisés. Sauf que si on laisse la Grèce toute seule essayer de mettre à contribution ses contribuables fortunés, elle ne peut rien faire parce qu'il suffit d'aller, ils cliquent et ils transfèrent leur argent dans un autre pays. L'Europe entière a félicité Monti l'an dernier quand il a créé un impôt sur le patrimoine, qui ressemble un peu à l'impôt sur le capital dont je parle.
Ouais,
sauf que, comme il l'a fait tout seul, en Italie, il s'est dit, bon, j'ai pas envie que les actifs financiers partent, donc je vais taxer l'immobilier à un taux 8 fois plus élevé que les actifs financiers. Alors, manque de peau, les plus hauts patrimoines sont plus financiers qu'immobiliers. Donc, l'Italien moyen qui s'est retrouvé avec sa bicoque à payer un taux 8 fois plus élevé que quelqu'un qui a un énorme patrimoine en action, il a dit, écoutez, Monti, l'Europe l'adore, mais moi, je vais pas voter pour lui. Et Berlusconi a promis de rembourser l'impôt en question, ça s'est terminé comme on sait, et tout ça est une catastrophe. Pourquoi ? Parce que là encore, l'Italie, même si elle est un peu plus grande que la Grèce, toute seule, ne peut pas répartir l'impôt de façon juste. Donc il ne s'agit pas de spolier qui que ce soit, il s'agit juste de dire, si vous vous retrouvez à avoir un taux d'imposition 8 fois plus élevé sur des éléments de patrimoine plus modestes, moyens, classe moyenne, que des patrimoines plus importants, au motif que les patrimoines plus importants sont mobiles, bon, ok, les moins mobiles sont coincés, mais si vous poussez jusqu'au bout le processus... Donc, je pense que le risque de tout ça, c'est qu'on finisse par basculer dans le repli national, qui est effectivement l'autre solution pour réguler le capital, qui est...
Contrôle d'échange, alors.
Contrôle des capitaux. Alors, regardez, la Chine, comment fait la Chine ? La Chine tolère des inégalités gigantesques de patrimoine en son sein. Sauf que si jamais vous voulez sortir votre patrimoine pour l'amener en Suisse, vous n'êtes plus propriétaire de votre patrimoine. C'est-à-dire que vous avez un contrôle des capitaux à la sortie qui est extrêmement strict. Vous avez aussi un contrôle des capitaux à l'entrée qui est extrêmement strict. Alors, je ne dis pas du tout que ce soit une bonne solution, parce que pour l'occurrence, ça fait des inégalités à l'intérieur gigantesques. Et je ne suis pas sûr que ce soit très stable politiquement éternellement. Mais c'est pour dire qu'il y a d'autres solutions que la coopération internationale que je décris. Simplement, ces autres solutions me semblent illusoires et finalement beaucoup plus dangereuse que la solution coopérative que je décris.
Jean-Philippe Del Sol.
La question, en fait, est celle de la perspective dans laquelle on se place. Thomas Piketty souhaite il dit que ce serait la perfection, un gouvernement mondial, pour assurer le prélèvement de l'impôt. Mais en réalité, moi, je pense au contraire qu'il faut la concurrence entre les États, entre ceux qui prélèvent l'impôt, pour protéger le contribuable. Et parce que la concurrence entre les États est aussi bonne pour le contribuable que la concurrence entre les entreprises l'est pour les consommateurs. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut encourager évidemment la fraude des contribuables. Il faut au contraire la contrôler et éviter qu'elle se produise. Mais en réalité, moins les contribuables seront déraisonnablement taxés, moins ils frauderont. Et aujourd'hui, le problème des États, c'est qu'ils surtaxent tellement leurs contribuables qu'ils ne le supportent plus. Donc, je pense qu'il faut au contraire rétablir la concurrence.
Le fiscal
c'est le ras-le-bol fiscal.
Alors, je pense que
je vais terminer, si vous me le permettez, en vous disant que, bien évidemment, l'antimodèle, c'est la Chine. Car on voit bien que c'est au Parlement chinois qu'il y a le plus de millionnaires au monde par rapport à tous les autres parlements, et de loin. Ce qui veut dire que ces économies centralisées, protégées, nationalisées sont évidemment le pire de ce qu'on peut faire.
Alors, en fait, il y a plus de milliardaires dans la politique américaine que dans la politique chinoise.
Ces chiffres parle du Parlement.
Oui, oui, mais je les ai bien examinés. Vous n'êtes pas arrivé jusqu'à ce chapitre-là, mais j'ai bien examiné ces chiffres. Et c'est en fait une invention d'agences de presse occidentales. Et si on regarde sérieusement les données dont on dispose, je ne dis pas du tout qu'il n'y a pas de millionnaires en Chine, mais je vous assure que la politique américaine est un niveau de patrimoine relativement au pays qui est beaucoup plus décroché par rapport à la moyenne qu'en Chine. Donc, ce n'est pas du tout pour faire l'apologie de la Chine, qui n'est pas du tout un état de droit. Mais on se raconte beaucoup de choses pour justifier nos modèles inégalitaires et parfois qui sont justes, parfois qu'ils sont moins. Et donc, voilà, il faut regarder les choses précisément.
Brice Couturier.
Alors, il faut savoir que Thomas Piketty est un des rares économistes français dont les théories soient discutées dans le monde entier. Et en particulier, alors pas son dernier livre évidemment, parce que les gens n'ont pas eu le temps d'en prendre connaissance, mais ses théories précédentes avaient eu de larges échos dans la presse économique internationale et notamment américaine. J'ai trouvé par exemple cet article, alors ça va faire vous plaisir à M. Del Sol, un article émis par un contributeur du site Cato Institute, qui est un site libertarien, donc très hostile à ce que vous représentez, qui était paru dans The Economist, et voilà ce qu'il disait. Il y avait deux arguments qui me paraissaient assez convaincants face à ce que vous proposez. Il disait deux choses. D'une part, les théories de Piketty sont typiquement européennes. Pourquoi ? Parce qu'il a l'idée que le revenu national est un gâteau qu'on doit se partager et non pas quelque chose qui évolue. Il avait donc l'idée qu'il fallait taxer les plus riches parce qu'il avait l'idée que si on ne taxait pas les plus riches, c'est les plus pauvres qui allaient s'appauvrir. Alors que nous, Américains, nous pensons le contraire. Nous pensons que les riches contribuent à grandir le gâteau. Premier argument, mais il y en a un deuxième qui me paraît encore plus convaincant et je voudrais vous l'opposer, vous déposer les deux. C'est l'idée que si on impose des taxes importantes, des impôts importants sur le capital des entrepreneurs, on va dissuader ces entrepreneurs de réinvestir leur argent comme l'ont fait par exemple les manias de l'économie numérique qui ont, comme on sait, nourri la Silicon Valley en finançant des start-up. Qui nous dit l'auteur de cet article qui est Chris Edwards, qui nous dit que l'État serait un investisseur plus intelligent que ces entrepreneurs qui, eux, ont su voir que dans la Silicon Valley, il y avait ces start-up à faire vivre.
Thomas Piketty.
Oui, enfin, moi, j'ai pas proposé de mettre le ministre de l'Industrie à la place de la Silicon Valley. Hein. Alors, écoutez, évidemment, on a besoin d'entrepreneurs. Et j'ai aucune passion pour l'égalité absolue. Simplement, comme le dit l'article 1 de la déclaration de 1789, les distinctions sociales doivent être fondées sur l'utilité commune. C'est-à-dire que les inégalités sont admissibles dans la mesure où elles sont utiles à tout le monde. Et c'est là qu'il faut regarder les choses très, très précisément. Et on peut pas juste dire n'importe quel niveau d'inégalité auquel nous conduit le marché est forcément bon et l'harmonie naturelle prévaudra quoi qu'il arrive. On ne peut pas faire cette hypothèse tout simplement parce qu'on a aujourd'hui un rythme de progression des patrimoines les plus importants qui n'est pas tenable à long terme. Mais je pense que M. Del Sol ou toute personne de bonne foi
vous le démontrez de façon
est obligé de constater évidente que les choses ne peuvent pas continuer à ce rythme-là. C'est-à-dire que quand vous avez dans tous les pays du monde où on fait des classements de patrimoine, les patrimoines les plus importants qui progressent à 7-8% par an, aussi bien des patrimoines hérités que des patrimoines entrepreneuriaux. Alors, et à un moment, la distinction n'est plus vraiment pertinente d'ailleurs, parce que évidemment, vous avez toujours des entrepreneurs, vous n'en avez pas 80%, comme vous disiez, c'est plutôt la moitié ou 30 ou 40%. J'essaye d'examiner les chiffres avec leurs limites. Mais dans tous les cas, vous savez, la vie est longue. Donc, entre le moment où vous avez fait votre invention à 40 ans et 90 ans, et les patrimoines continuent de progresser tout seul à des rythmes qui sont actuellement de l'ordre de 7-8% par an au-dessus de l'inflation. Il y avait encore le classement Forbes la semaine dernière, le classement Challenge en France. Cet été, vous avez des classements en Allemagne, au Royaume-Uni, dans tous les pays du monde. Donc si vous avez 7-8% de croissance par an, de tous les plus hauts patrimoines, en moyenne, en comptant ceux qui descendent, mais il y en a des nouveaux qui montent. Donc au total, si vous prenez un groupe constant en termes de pourcentage de la population des patrimoines les plus élevés, que vous avez cette progression à 7-8% par an, alors que le patrimoine moyen, le revenu moyen progresse de 1 ou 2% par an, vous comprenez bien que vous allez, en quelques dizaines d'années, sur un niveau de concentration patrimoniale qui n'est pas tenable démocratiquement et qui n'est pas utile économiquement. Parce que, juste remontons un petit peu en arrière, et c'est à ça que sert l'histoire. Est-ce que vous me direz, monsieur Del Sol, qu'en 1910, quand vous avez 70% du patrimoine légué à Paris chaque année, qu'il l'est par les 1% des décédants les plus riches en patrimoine, est-ce que vous allez me dire que ce niveau de concentration du patrimoine est indispensable pour le dynamisme économique ? Est-ce que vraiment vous y croyez ?
Allez, Jean-Philippe Del Sol.
Alors, je pense que vous avez raison sur le fait que, globalement, l'argent va à l'argent, disons. C'est-à-dire que ceux qui sont les plus riches ont peut-être plus de facilité, s'ils sont riches, à s'enrichir encore. Et deuxièmement, vous avez noté, et là je partage totalement votre point de vue, l'allongement de la durée de vie. En réalité, je dirais qu'au-delà des lois économiques, dont il faut toujours un peu se méfier tout de même, parce qu'elles ne s'appliquent qu'à des hommes, il y a précisément l'homme, et c'est l'homme qui est important. Il y a des gens qui ont l'habileté à s'enrichir, et d'autres non. Et l'allongement de la durée de vie
ça, c'est le favorisé... C'est Vautrin chez Balzac.
Je crois que l'allongement de la durée de vie a favorisé donc l'enrichissement, parce que en fait, celui qui est habile à s'enrichir vit aujourd'hui, dans sa vie d'homme mûr, deux fois plus qu'il y a seulement deux générations, ce qui veut dire qu'il a deux fois plus de temps pour s'enrichir. Et c'est un facteur à prendre en compte. Ceci dit, et au demeurant, je pense que globalement, il faut être très prudent dans les chiffres, et je vais en citer un. En 90, 47% de la population mondiale vit avec seulement, et c'est incroyable, $1 par jour. Aujourd'hui, seulement, et c'est encore trop bien entendu, 22% de trop de la population mondiale qui vit avec $1 par jour. C'est dire que entre 90 et aujourd'hui, dans ces 20 ans où vous dites que l'écart entre les hauts et les bas revenus s'est beaucoup augmenté, vous avez raison sur le papier, eh bien, en fait, les plus pauvres ont pu sortir pour partie, pour moitié d'entre eux, de l'extrême pauvreté.
C'est partie des objectifs du millénaire.
Non, mais moi, je le conteste. Le 21e siècle, c'est à la fois un espoir formidable, la fin de la pauvreté dans le monde. On n'a jamais aussi mieux vécu dans les pays riches, et les pays pauvres s'améliorent. Donc, il y a des choses formidables. Simplement, vous avez en même temps que cet immense espoir, vous avez des inégalités tout aussi disproportionnées avec des individus aussi riches que des pays. Et qui s'enrichissent de plus en plus. Donc, à nouveau, je veux attirer votre attention sur ce point, M. Delsol. Si vous avez un taux de croissance des plus hauts patrimoines, qu'importe qu'il soit de 6, 7, 8 mais pour 100 par an, mais à partir du moment où il est 3, 4 fois plus élevé que le rythme de la croissance économique, quel est votre mécanisme régulateur? Votre mécanisme régulateur, ça a l'air d'être, il n'y a rien à faire, éventuellement.
Il ne sera pas pour l'impôt progressif.
Oui, mais vous me dites, et dont ces personnes à payer encore moins d'impôts, et tout ira encore mieux. Bon, c'est très bien, mais c'est un petit peu perso quand même.
En fait, l'impôt progressif, il existe, car l'ISF aujourd'hui en France est progressif.
Ça n'empêche pas, c'est pas très
bon. Ce qui est extrêmement d'ailleurs grave en France, c'est qu'on a à la fois l'impôt sur la fortune et les droits de succession très élevés, 45% dans la dernière tranche. Alors que, par exemple, en Suisse, vous avez un impôt sur la fortune qui n'est pas négligeable, mais vous n'avez pas de droits de succession en ligne directe. Et dans beaucoup d'autres pays, c'est la même chose.
Je vais juste poser une question très simple, M. Delsol. Comment se fait-il qu'avec tous ces impôts spoliateurs, après tout avoir payé tous ces impôts, ces patrimoines progressent de 7-8% par an dans tous les pays pour lesquels on expose des classements? Il y a un moment où vous êtes obligé de regarder les faits. Ces impôts sont horribles, mais visiblement, qu'est-ce que ce serait dans ce cas-là? À combien on progresserait? Vous savez, d'après les comptes qui ont été déposés par un certain nombre de personnes, Warren Buffett aux États-Unis, Liane Bettencourt, ces impôts, on a des taux d'imposition effectifs à ces niveaux de patrimoine où vous avez une optimisation fiscale extraordinaire. Des taux d'imposition effectifs qui sont extrêmement faibles. Warren Buffett dit « je paye moins que ma secrétaire, ça m'embête un petit peu ».
Ce qui est évidemment faux, d'ailleurs.
Bon, écoutez, restons aux faits qui sont les taux de progression de ces patrimoines, donc après impôts. Ces patrimoines progressent à 7-8% par an. Donc vous voulez nous dire que c'est pas assez?
Mais je vais vous expliquer pourquoi.
Alors, Jean-Philippe Delsol.
En réalité, une personne n'a pas besoin de revenus au-delà de ce qu'elle a besoin de dépenser. Et donc, quand quelqu'un est riche, il ne prend comme revenu que ce dont il a besoin. Le reste, c'est son capital qui peut augmenter quand il est réussi. Il peut aussi, d'ailleurs, baisser quand il perd, quand il ne fait pas les bons choix. Et donc, en fait, son patrimoine augmente, mais son revenu reste globalement stable. Et c'est la raison pour laquelle il y a la distorsion que vous évoquez. Ce que je voudrais souligner, c'est que, ceux qui arrivent à gagner 7 à 8% par an, ce sont ceux qui investissent dans les entreprises qui ont du succès, c'est-à-dire ceux qui font les bons choix, ceux qui favorisent l'innovation. Car en réalité, les Bill Gates et même les Bettencourt, ce sont des gens qui ont innové et qui n'ont pas cessé d'innover. Car quand une entreprise cesse d'innover, elle ne gagne plus.
Ils ont créé des emplois.
Ils ont donc créé des emplois. Ils ont créé en fait de la richesse chez les sous-traitants, dans leur environnement. Et c'est ça qui est important.
Oui, enfin, moi, j'ai rien contre cette vieille dame qu'est Liane Bettencourt, mais je ne crois pas quand même que vous puissiez dire sérieusement qu'elle ait énormément innové au cours des 50 dernières années, personnellement. En tout cas, donc je pense que si le
type. Ah, L'Oréal a énormément innové.
Mais L'Oréal, mais c'est autre chose. L'Oréal, c'est des dizaines de milliers de salariés, monsieur. Il ne faut pas
L'Oréal,
confondre
c'est son
une
entreprise.
Personne.
Elle a laissé son argent dans L'Oréal.
Ce sont les dizaines de milliers de salariés, d'ingénieurs et de managers.
Mais bien sûr,
aussi,
on ne réussit jamais tout seul, vous savez.
Mais bah, là, c'est plus que ça.
Alors, je voudrais quand même, à ce stade-là, de toute façon, pointer quelque chose qui est quand même très important dans votre livre. C'est que vous dites que, du coup, évidemment, et c'est ce à quoi tend le livre, c'est qu'il y a tout de même une sorte de mirage de nos sociétés qui promettait au fond la richesse et un avancement, on va dire, dans sa vie, qui était dû plus à la méritocratie qu'à l'héritage. Et vous dites au fond que c'est quand même l'héritage qui gagne, que la méritocratie qu'on invoque depuis au moins 1789, ne fonctionne pas et qu'elle est totalement phagocytée par la question tout de même de l'héritage.
Oui, alors la croissance a permis des choses extraordinaires et les niveaux de vie aujourd'hui sont bien meilleurs que ce qu'ils étaient avant et beaucoup de choses vont encore s'améliorer. Moi, je ne suis pas dans le catastrophisme et l'apocalypse. Non. Simplement, c'est vrai qu'il y a un espoir méritocratique très fort qui a eu lieu au cours du XXe siècle qui était en partie fondé sur des illusions. C'est-à-dire qu'il y a un espoir, comme on disait tout à l'heure, sur le remplacement du patrimoine par le capital humain, un remplacement du propriétaire par le cadre méritant, une montée en avant des compétences, qui était en partie une illusion pour la raison suivante. C'est-à-dire que, évidemment, les compétences, les qualifications humaines sont beaucoup progressées sur un siècle. Mais les formes de patrimoine non humain ont également énormément progressé. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de patrimoine immobilier, d'équipements, de machines, de brevets. Et donc, finalement, au total, l'équilibre entre le capital humain et le capital non humain ne s'est pas transformé, ou en tout cas ne s'est pas transformé dans les proportions qu'on imagine. Et finalement, on se retrouve aujourd'hui avec une importance du capital immobilier financier qui n'est effectivement pas très loin du monde de Balzac et de Vautrin. Donc moi, j'essaye surtout dans ce livre de raconter ces illusions, de montrer comment les représentations, y compris dans la littérature, se sont transformées au fur et à mesure de ces transformations. Et surtout qu'il n'y a pas de raison naturelle pour lequel cette structure d'inégalité à très long terme. La rationalité économique ne mène pas forcément à la rationalité démocratique et méritocratique. Quoi. C'est ça qu'il faut, il faut bien comprendre.
Un petit extrait pour justement aussi, au fond, être fidèle à l'esprit de votre livre, qui cite beaucoup la littérature, hein, Jane Austen et on l'a dit, Balzac. Écoutez cet extrait du Père Goriot, c'était le téléfilm réalisé par Guy Georges en 1972. C'est le moment du complot avec Rubin Pré, Vautrin.
Écoutez-moi bien. Moi, voyez-vous, j'ai une idée. Mon idée est d'aller vivre de la vie patriarcale au milieu d'un grand domaine. 100 000 arpents, par exemple. Aux États-Unis. Dans le sud. Je veux m'y faire planteur. Je possède en ce moment 50 000 francs, qui me donneraient à peine 40 nègres. J'ai besoin de 200 000 francs parce que je veux 200 nègres. Des nègres, voyez-vous, c'est des enfants tout venus dont on fait ce qu'on veut. Avec ce capital noir, en 10 ans, j'aurai 3 ou 4 millions. Si je réussis, personne ne me demandera qui es-tu. Je serai Monsieur 4 millions, citoyen des États-Unis. J'aurai 50 ans, je ne serai pas encore pourri. Je m'amuserai, à ma façon. En deux mots, si je vous procure une dot d'1 million, me donnerez-vous 200 000 francs. 20% de commission, hein, est-ce trop cher? Vous vous ferez aimer de votre petite femme. Une nuit, après quelques singeries, vous déclarerez entre deux baisers 200 000 francs de dette à votre femme en lui disant mon amour. Croyez-vous que vous y perdrez? Non, vous trouverez le moyen de récupérer vos 200 000 francs. Avec votre argent et votre esprit, vous amasserez une fortune aussi considérable que vous pourrez la souhaiter. Ergo, vous aurez fait en 6 mois de temps votre bonheur, celui d'une femme aimable et celui de votre papa Vautrin. Sans compter celui de votre famille qui souffle dans ses doigts l'hiver, faute de bois.
Voilà, extrait. C'est quasiment votre livre.
Oui, enfin, oui, merci pour cet extrait auquel je fais référence. C'est vrai que Vautrin, non seulement il veut aider Rastignac à mettre la main sur un patrimoine, mais après il a l'intention d'en prendre une partie pour aller reconvertir tout ça en rente négrière dans le sud des États-Unis, puisque c'est ça son projet, son projet entrepreneurial.
Oui, moi je voudrais d'abord souligner que, en fait, si on prend les 500 fortunes de Challenge, il y en a un tiers qui sont en fait des self-made men. C'est-à-dire des gens qui, même en France, la France qui est l'un des pays où sur le plan juridique on peut entreprendre facilement, mais sur le plan fiscal on peut entreprendre très difficilement, eh bien un tiers a réussi en innovant à créer des entreprises. Donc, ça veut dire que l'héritage, il a sa part, il n'a pas que sa part. Je voudrais rajouter aussi autre chose. La rente négrière, méfions-nous, parce qu'en fait, moi, j'ai plutôt tendance à penser que là où il y avait l'utilisation du capital négrier, les pays, justement, n'ont pas réussi à innover parce qu'ils se reposaient trop sur le travail facile et bon marché. Et d'ailleurs, c'est le Nord-Américain qui a créé la grande entreprise contre le Sud-Américain qui s'est enfoncé dans une agriculture sereine, comme le dit Balzac peut-être, mais en réalité totalement endormie.
Vous avez raison que l'inégalité extrême n'est pas source de croissance. La question, c'est est-ce qu'il faut attendre que ça s'effondre pour y mettre fin. C'est-à-dire qu'on peut peut-être avant prendre conscience. Et je veux juste dire que vous savez, même à cette époque-là des grands domaines terriens, vous aviez des auteurs qui expliquaient que tout ceci n'avait rien à voir avec une rente, qu'en fait, pour administrer un grand domaine, il s'agissait tout de même d'être un entrepreneur rusé et que tout ça était bien mérité. Et Paul Leroy-Beaulieu, grand professeur au Collège de France de la Belle Époque, écrivait à longueur de livres sur le fait que surtout, il était urgent de ne rien faire, car beaucoup d'entrepreneurs...
Oui, vous citez d'ailleurs.
Oui, Et je suis désolé de vous dire que quand je vous entends, je vois des points communs, c'est-à-dire que je vois une espèce de foi infinie dans l'harmonie naturelle qui est tout à fait sympathique, mais qui ne me semble reposer sur aucune
c'est
analyse sereine.
C'est pas véritablement ça, j'ai plus foi dans l'homme que dans les gouvernements des hommes.
Oui, bon, ne faisons rien et donnez à payer moins d'impôts, puisque c'est votre métier.
J'ai dit laissons la liberté s'exprimer le mieux possible dans un cadre qui doit exister, mais qui doit être simple autant que rigoureux.
Brice Couturier.
Moi j'ai lu avec beaucoup de passion le livre de Thomas Piketty et je pense que les phénomènes qu'il a mis en lumière sont incontestables et surtout qu'ils sont insoutenables. Mais j'ai une petite solution qui ne passe pas par un impôt universel.
Ah, Thomas Piketty, qui passe
par ce qu'on vient d'entendre aux informations ce matin. Ouais. Vous avez vu que la Fed va poursuivre sa politique d'injection massive de capitaux, de rachat de 84 milliards de dollars par mois.
Contrairement à ce qu'on croyait il y a encore quelques jours.
Contrairement à ce qu'on croyait, des obligations d'État américaines. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que les États-Unis, comme le Japon de Monsieur Abe, sont en train de nous fabriquer une inflation violente. Cette inflation, elle va arriver à un moment ou à un autre, on ne sait pas quand, mais à un moment, d'un seul coup, ça va démarrer et ça va enflammer la planète entière. Est-ce que ça, ce n'est pas la solution pour faire dégonfler tout simplement ces énormes fortunes accumulées? Parce qu'elles vaudront quoi dans 5 ans, ces énormes fortunes accumulées?
Voilà, je vous donnerai les réponses rapides parce qu'on va arriver au bout.
Les banques centrales ont un rôle tout à fait essentiel à jouer pour nous sortir d'une crise financière comme en 2008. Maintenant, les banques centrales ne sont pas outillées pour résoudre tous les problèmes du monde. Et en particulier, l'inflation. Le problème, c'est un peu l'impôt sur le capital du pauvre, l'inflation. C'est-à-dire que ça va frapper des dépôts bancaires qui sont pas du tout placés. Par contre, pour les patrimoines élevés placés en actions, en immobilier, leurs prix vont augmenter au moins autant que l'inflation. Et donc, ils sont absolument protégés par rapport à ça. Donc, s'imaginer que l'inflation peut se substituer à l'impôt démocratique est une illusion. Bon, maintenant, si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur un impôt démocratique permettant de rembourser la dette, parce que dans le fond, les richesses, elles sont là. On a beaucoup plus de richesses que de dettes publiques. L'Europe, dans son ensemble, possède beaucoup plus de placements à l'étranger que le reste du monde en possède en Europe. On n'est pas encore la propriété de l'émir du Qatar, contrairement à ce qu'on se raconte parfois. Donc, c'est nos institutions européennes qui sont dysfonctionnelles. On pourrait trouver une solution rationnelle ensemble. Maintenant, à défaut de solution rationnelle, vous avez raison, que l'inflation, historiquement, est un des modes par lequel les dettes issues du passé ont été nettoyées. Bon, il y a plein de formes...
Après la guerre, c'est comme ça que ça s'est
passé. Il y a plein de formes de résolution des problèmes, mais celle-ci, il y en a des meilleures, simplement. Donc essayons d'en débattre.
Jean-Philippe Delsol.
Je crois que là-dessus, nous serons assez proches. L'inflation tuera les patrimoines des héritiers, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas cette habileté que j'évoquais à placer au mieux. Les autres, ceux qui ont cette habileté, sauront surfer sur l'inflation, me semble-t-il.
C'est plus une question de taille du patrimoine que d'habileté. C'est-à-dire qu'à partir d'une certaine taille de patrimoine, vous payez des gestionnaires.
Il faut encore choisir son gestionnaire et ça n'est pas facile.
Non, c'est vrai, il faut être malin. Mais néanmoins, lorsque vous avez 10 milliards d'euros en payant 0,1% de commission,
c'est
ça vous permet quand même
d'avoir... C'est pas uniquement une question de prix.
Tout n'est pas qu'une question de prix.
Dernière question, Thomas Piketty, on sait que vous aviez un temps inspiré les programmes de la gauche pour les campagnes électorales et puis qu'au fond cette inspiration-là venant de vous n'est pas vraiment reprise par le gouvernement actuel. Est-ce que vous êtes déçu de la politique fiscale du gouvernement, de ce qu'on appelle le ras-le-bol fiscal aussi des uns et puis il y a des couacs, entre la pause fiscale 2015 ou 2014 selon le président ou selon le Premier ministre, mais est-ce qu'au fond vous pensez que les bonnes décisions ne sont pas prises?
Oui, j'avais pas énormément d'espoir, donc je peux pas être très déçu. Disons, je pense il y a plusieurs choses. D'abord, la stratégie au niveau européen est mauvaise. C'est-à-dire que ça, Hollande et Sarkozy, de ce point de vue, ont suivi la même stratégie avec l'Allemagne, qui est d'une course-poursuite dans l'austérité budgétaire qui nous conduit à plus de récession et pas du tout à réduire la dette. Et on se retrouve dans cette situation incroyable de l'Europe, qui est en fait le continent le plus riche du monde en termes de patrimoine, qui a moins de dette publique que les États-Unis, que le Japon, le Royaume-Uni, et néanmoins qui est le seul qui est toujours en récession, parce que nos institutions sont totalement dysfonctionnelles. Donc on croire rétablir notre crédibilité en faisant une course-poursuite dans l'austérité, ça ne marche absolument pas. L'autre point, c'est que ce gouvernement augmente les impôts comme la TVA qui va augmenter au 1er janvier, dont il avait absolument exclu l'augmentation lorsqu'il était dans l'opposition. Donc personne n'a voté pour François Hollande pour avoir une hausse de TVA. On va la voir. Et par contre, ils ne font pas ce qu'ils avaient dit, c'est-à-dire une remise à plat de l'impôt sur le revenu comme ils s'y étaient engagés. Donc là, je pense qu'il y a un niveau d'incohérence entre les paroles et les actes qui pose un très sérieux problème.
Merci à vous, Thomas Piketty. Je rappelle donc Le Capital au XXIe siècle, c'est aux éditions du Seuil. Merci aussi, Jean-Philippe Delsol, d'avoir accepté notre invitation. À quoi servent les riches? Avec Nicolas Lecossin, c'est aux éditions Jean-Claude Lattès.